nos services francophones vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique, un nouveau numéro du Monde aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité. Dans ce studio avec vous, Nicolas Pineau et Morgane Guirieg. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Nicolas, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, nouveaux affrontements sanglants à Bambari en Centrafrique.
À Béni, premier rebondissement dans le procès des assassins présumés du colonel Ndala. Après avoir témoigné, son chauffeur est mort ce matin.
Le chauffeur du général Mamadou, il était avec lui le jour de l'embuscade et de l'assassinat. Il a témoigné hier.
En Côte d'Ivoire, journée nationale du cacao sur fond de récolte record.
Et pour les musulmans qui nous écoutent, la tabaski approche, le mouton toujours aussi cher.
Mais je trouve les prix très très chers, très chers. Les prix ne sont pas abordables franchement. Parce qu'un bélier comme ça, on te parle de 200 ou encore 150 000.
Reportage à suivre au Mali, sans oublier en fin d'émission, les sports et la musique. Mais pour l'instant, le journal, vous écoutez La Voix de l'Amérique. Bonsoir.
En République centrafricaine, au moins 25 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées dans des affrontements entre groupes armés à Bambari, dans le centre-est du pays. Les soldats français disent avoir tué mercredi 5 à 7 individus en riposte à un groupe armé, probablement musulman, qui a ouvert le feu sur la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, et la force française Sangaris. Que s'est-il passé dans cette ville qui abrite l'état-major de l'ex-rébellion de la CEDECA? On écoute Francine Roy, la chef de la délégation du CICR en Afrique, jointe à Bambari.
Hier matin, un véhicule qui se dirigeait vers une zone à l'est de la ville de Bambari a été pris dans une embuscade et ses occupants ont été assassinés. Donc c'est saleté de trois occupants musulmans dont les corps ont été ramenés en ville. Et c'est cet assassinat qui a créé en quelque sorte le mouvement de représailles contre l'autre communauté. Au niveau du bilan, on a quand même une bonne dizaine de personnes blessées par balle. Et par contre, beaucoup plus de blessés et de décès du côté des personnes qui ont été tuées simplement à la machette ou autre arme blanche. Le calme est revenu, là, c'est un peu chacun compte ses blessés et un père ses morts, donc c'est un calme quand même un peu crispé. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu d'assassinat non plus. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est un peu le jour où chacun fait son bilan et les familles enterrent leurs morts.
Francine Roy, chef de la délégation du CICR en Centrafrique et toujours dans le pays, la présidente de la transition a nié avoir détourné de l'argent depuis son arrivée au pouvoir en janvier. Le démenti de Catherine Samba-Panza, lu à la radio nationale, fait suite à des révélations évoquant la gestion opaque d'un don de 10 millions de dollars accordé par l'Angola. L'Angola avait annoncé début mars l'octroi de cette aide et selon les médias, un quart de cette somme distribuée en liquide par les autorités angolaises aurait disparu. Madame Samba-Panza a affirmé avoir rassuré à ce sujet la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.
Au Nigeria, l'armée affirme toujours ce soir avoir tué l'homme qui affirme être Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram. Ce dernier est réapparu dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. On fait le point avec Nathalie Barge.
La vidéo obtenue par l'AFP et publiée ce jeudi montre l'homme barbu martelant qu'il est bel et bien en vie et qu'il ne mourra que le jour où Allah lui ôtera le souffle. En tenue de combat sortie de bottes en caoutchouc, Kalachnikov en bandoulière, il ressemble au Sheko vu dans les précédents clips de Boko Haram et parle de la même manière, on ne peut plus animer. Après une démonstration de tir à la mitrailleuse perché à l'arrière d'un pick-up sur fond de musique islamique, il déclame tout sourire, je cite, ni Barack Obama, ni François Hollande, ni Benjamin Netanyahou, ni Ban Ki-moon, ni la reine Elisabeth ne me tueront. Il ajoute que son groupe armé a mis en place la loi islamique stricte dans le nord-est du Nigeria, qu'il qualifie de califat. L'armée nigériane a déclaré la semaine dernière que le véritable Sheko était déjà mort et que l'homme des vidéos, qu'elle identifie du nom de Mohamed Bachir, avait été tué au cours de combats en périphérie de la ville de Kanduga. C'est la deuxième fois que l'armée annonce la mort du chef des salafistes avant que Boko Haram n'affirme le contraire dans des vidéos de propagande.
Et on reste au Nigeria, 88 militaires comparaissent devant la cour martiale pour avoir refusé d'affronter les islamistes de Boko Haram.
On part en Algérie, la justice a lancé des poursuites contre 15 personnes soupçonnées d'avoir participé à l'enlèvement et à l'assassinat d'Hervé Gourdel, l'otage français décapité en Algérie. Selon l'agence France-Presse, les 15 suspects en fuite sont tous de nationalité algérienne. Parmi eux figurent Abdelmalek Gouri, dit Khaled Abdul Suleiman, 37 ans, le chef de Joun al-Khilafa, les soldats du califat, le groupe qui a revendiqué l'assassinat d'Hervé Gourdel. L'autre principal suspect est son bras droit, Abdallah Abou Meriem.
Condamnation politique au Burundi à l'approche des élections de 2015. Le président de la principale coalition d'opposition écope d'un an de prison ferme pour dénonciation calomnieuse contre le parti au pouvoir. Dans une lettre envoyée au secrétaire général de l'ONU, Léonce Nganda Koumana avait accusé le CNDD-FDD de préparer un plan comparable à celui ayant débouché sur le génocide au Rwanda voisin en 1994. Ces tentatives de nous réduire au silence sont vaines, a déclaré Léonce Nganda Koumana, qui compte faire appel.
Et puis la Cour pénale internationale, Charles Blégoudé affirme avoir tout fait pour préserver la paix en Côte d'Ivoire. Bras droit de l'ex-président Laurent Gbagbo, il s'est présenté comme un partisan de la non-violence au cours de ses audiences de confirmation des charges. La Cour a 60 jours pour dire si oui ou non Blégoudé doit être poursuivi pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2010-2011 ayant fait des milliers de morts en Côte d'Ivoire.
Trois Nigériens ont été arrêtés près de la frontière avec l'Algérie dans la zone de Tiririne. D'après le gouvernement algérien, un fusil automatique, des munitions, un véhicule tout-terrain et 5 motos ont été saisies.
Et puis Londres a accueilli aujourd'hui une conférence sur la mobilisation internationale contre l'Ebola. Pour sa part, l'ONG Save the Children affirme qu'en Sierra Leone, au moins 5 nouvelles infections au virus Ebola ont lieu toutes les heures. Camille Grosdidier.
La Grande-Bretagne s'est engagée jeudi à débloquer 160 millions d'euros pour aider la Sierra Leone à lutter contre l'Ebola. Mais sur le terrain en Afrique de l'Ouest, on redoute que cet argent n'arrive trop tard. Au moins 765 nouveaux cas de la maladie ont été recensés dans le pays la semaine dernière, affirme l'ONG Save the Children, alors que le Sierra Leone ne compte que 327 lits pour les recevoir. Tout en se félicitant des engagements pris à Londres, Save the Children a averti qu'il reste très peu de temps pour intervenir en Sierra Leone, peut-être seulement 2 semaines pour éviter le pire, d'autant que le personnel médical a été décimé par le virus à Ebola. En Guinée, le président Alpha Condé a profité du 56e anniversaire de l'indépendance pour évoquer l'impact économique désastreux de l'Ebola. Et ici aux États-Unis, environ 80 personnes ont été placées sous surveillance au Texas pour avoir été à proximité d'un Libérien devenu le tout premier patient à être diagnostiqué avec le virus à Ebola dans le pays.
Et le chaos perdure autour de l'aéroport de Benghazi en Libye. 7 soldats ont été tués et plus de 60 blessés dans 2 attentats et des combats entre l'armée et des milices islamistes. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des sources militaires. Les milices islamistes tentent de prendre le contrôle de l'aéroport depuis le mois dernier. Par ailleurs, le Conseil de sécurité menace de sanctionner ceux qui mettent en péril la paix et la stabilité en Libye dans le but de consolider le dialogue initié par l'ONU.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 6h39, temps universel. Dans le reste de l'actualité, la lutte contre l'État islamique. Le Parlement turc a approuvé ce soir à une très large majorité un projet de résolution du gouvernement autorisant l'armée à mener des opérations contre les djihadistes en Syrie et en Irak. Après l'avoir explicitement refusé, la Turquie a donc fait savoir ces derniers jours qu'elle était prête à rejoindre la coalition militaire formée par les États-Unis. Et puis sur le terrain, au moins 40 djihadistes et 17 membres des forces de sécurité irakiennes sont morts dans 2 attaques de l'État islamique contre des bases de l'armée et de la police dans l'ouest du pays.
Le chef de l'exécutif hongkongais, sommé par les manifestants pro-démocratie de démissionner, oppose une fin de non-recevoir tout en présentant une offre de dialogue. Je ne démissionnerai pas parce que je dois continuer à travailler sur la réforme électorale, a déclaré Leung Chun-ying. De son côté, l'Union européenne exprime sa préoccupation face à la situation et appelle toutes les parties à continuer à montrer de la retenue.
En Ukraine, d'intenses combats se poursuivaient ce jeudi autour de l'aéroport stratégique de Donetsk dans l'est du pays. Les séparatistes pro-russes tentaient de reprendre cet aéroport stratégique tenu par les forces gouvernementales. Jacques Aristide.
Un nouvel assaut qui affaiblit davantage les accords de cessez-le-feu conclus par les belligérants le mois dernier. D'après un porte-parole de l'armée ukrainienne, les insurgés menaient leur offensive à l'aide de chars, bombardant le terminal principal de l'aéroport de Donetsk. Des troupes rebelles avaient pénétré dans un des terminaux mercredi, indiqué de son côté une représentante des indépendantistes, mais elle ne pouvait pas confirmer si les insurgés étaient encore à l'intérieur ou avaient quitté les lieux. À quelques kilomètres de l'aéroport, d'autres affrontements ont fait 10 morts hier lorsque des projectiles se sont abattus sur un arrêt d'autobus et une école le jour de la rentrée des classes dans les régions rebelles. Les séparatistes accusent l'armée ukrainienne d'être à l'origine des tirs. Amnesty International a repris cette accusation, mais d'affirmer que les rebelles devaient en partager la responsabilité. Pendant ce temps, Moscou a ouvert une enquête contre le ministre ukrainien de la Défense, Valery Geletei, et d'autres militaires accusés de génocide de populations russophones en Ukraine. Cette annonce intervient au lendemain de l'inculpation en Russie d'un soldat ukrainien pour meurtre de civils. Et à l'approche de l'hiver, Russes et Ukrainiens devaient reprendre à Bruxelles leur difficile pourparlers sur le gaz après l'arrêt des livraisons de Moscou à l'Ukraine en juin.
L'ex-chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadžić, affirme ignorer tout du massacre de Srebrenica en juillet 1995. Selon ses avocats, il n'y a pas la moindre preuve montrant que M. Karadžić avait planifié ou ordonné l'exécution de prisonniers.
Ou même qu'il en était au courant. La directrice générale du FMI redoute une longue période de croissance économique médiocre sur le globe. Christine Lagarde évoque les aléas géopolitiques et les risques de volatilité financière.
En Afrique du Sud, la ville du Cap renonce à organiser la 14e édition du sommet des prix Nobel de la paix. L'événement, qui devait se tenir du 13 au 15 octobre, n'aura pas lieu en raison du refus de Pretoria de délivrer un visa au Dalai Lama. C'est la troisième fois qu'un visa est refusé au guide spirituel tibétain.
Voilà pour ce journal. Au micro, Nicolas Pineau et Morgane Guiriec en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Tout de suite, la partie magazine de notre émission.
Première escale, Nicolas, à Béni, dans le Nord Kivu.
Et la deuxième journée d'audience des assassins présumés du colonel Mamadou Ndala a connu un premier rebondissement. Le sergent-major Ntabu Ndongala Arsène, principal témoin, est brusquement décédé ce matin dans des circonstances mystérieuses. Ce décès suscite de nombreuses interrogations, 24 heures seulement après le témoignage à la barre du chauffeur du colonel Ndala. Reportage sur place de Dominique Dinanga de Top Congo FM, notre radio partenaire.
Et parmi les trois clients dont je suis avocat de la défense, un de mes trois clients venait de mourir. Il s'agissait du chauffeur, sergent-major Ndabu Ndongala.
Cette annonce de l'avocat de la défense, intervenue ce jeudi à l'ouverture de la deuxième journée du procès, a jeté un froid glacial à l'assistance. Le sergent-major Ndabu Ndongala, chauffeur du général Mamadou Ndala, qui comparaissait encore mercredi, est mort jeudi matin de manière brusque et mystérieuse. Poursuivi pour non-assistance à la personne en danger, il a plaidé non coupable lors de la première audience. Mais de quoi est-il mort exactement? Le docteur Pierre Makelele est médecin à la clinique Santé Plus de Béni. C'est lui qui l'a pris en charge à son arrivée à l'hôpital.
Il est venu ici dans notre institution Santé Plus à 7h aujourd'hui, le 2 octobre, dans un état de mort apparente. La tension artérielle était de 0 sur 0. Chaque 5 secondes, une respiration. On l'a libéré il y a 2 semaines et le pronostic était bon. On ne sait pas comment expliquer son état d'aujourd'hui. Parce que comme on l'a bien traité il y a 2 semaines, et l'état qu'il est venu aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas vraiment bien explicable.
En réaction, la société civile du Nord Kivu, qui s'est dit très choquée, exige une autopsie.
Ce monsieur-là, sa perte, c'est déjà pour nous un mauvais débit et nous craignons que le vérité qui pourrait révéler puisse s'effacer ou puisse disparaître avant qu'elle ne soit connue du public. Nous sommes vraiment déçus. Nous sommes déçus et nous exigeons que l'autopsie soit faite et que l'on établisse effectivement ce qui serait à la base de sa mort. Donc pour nous, c'est un choc et nous continuons à croire tout de même qu'il importe que ce verdict puisse permettre qu'on lève toutes les suspicions.
De leur côté, les avocats de ces témoins essentiels dans le procès du général Mamadou Ndala indiquent que sa mort ne devrait pas compromettre la poursuite normale du procès. Depuis Beni, Dominique Dinanga, Top Congo FM pour la Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le bilan mitigé de la gouvernance en Afrique dressé par la fondation Mo Ibrahim, alors que des voix s'élèvent en RDC, au Burundi, au Congo-Brazzaville ou encore au Burkina Faso contre toute modification de la Constitution destinée à permettre à un chef d'État de se maintenir au pouvoir. Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h30 sur la VOA.
En Côte d'Ivoire, le cacao a l'honneur pour le premier pays producteur mondial de cet autre or noir. Les planteurs et les chocolatiers ont lancé aujourd'hui la première édition des Journées nationales du cacao et du chocolat à Abidjan. Reportage de notre correspondant Germaine Dri.
En choisissant le thème « Économie cacaoyère performante et durable pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 », les planteurs et transformateurs du cacao veulent mobiliser l'attention de la nation sur les activités de ce produit, faire connaître aux populations les bienfaits du chocolat sur la santé humaine et surtout amener tous les planteurs à produire le cacao de qualité. Cette qualité qui permet aux planteurs de vendre leurs produits à 850 francs CFA au lieu de 750 francs comme cela s'achetait par le passé. Devant cette augmentation, on comprend la joie des paysans. Bernard Kouamé, planteur.
Le prix est nettement mieux. Et en tant que producteur, nous apprécions à sa juste valeur. Nous demandons que chaque fois qu'il y a l'opportunité, qu'un effort supplémentaire soit fait encore. Nos véritables problèmes, c'est les puces rurales impraticables, les conditions de travail même de ces structures coopératives, que le produit phytosanitaire, qu'on puisse l'avoir moins cher pour traiter les vergers des producteurs.
Nous sommes heureux en tant que planteurs. Je pense que c'est l'émergence des planteurs qui a commencé comme ça. Les charges sont trop.
Kouakou Jacques, Adaloa. Nous avions bien accueilli la nouvelle. Au-delà d'aider les producteurs, j'exhorte nos producteurs de café de cacao à aller à l'amélioration de la qualité. Il faudrait qu'on améliore la qualité du cacao dans nos champs.
Pour les chocolatiers venus à ce rendez-vous, cette rencontre constitue un brassage de ceux qui produisent la matière première et la chaîne de transformation. Benjamin Bessy.
C'est déjà un bon clin d'œil au monde des planteurs, puisqu'il faut dire que sans les planteurs, tout le chocolat ne pourrait pas exister. Et ça tombe bien donc au démarrage de la campagne. Donc c'est aussi une plateforme pour communiquer sur les nouveaux enjeux et évidemment de faire aussi le lien entre le monde des producteurs et l'industrie et le consommateur.
Jean-Marie Delon de FEV, nous allons continuer nos efforts en faveur du développement des plantations. Toutes les actions qui permettront bien évidemment en ligne avec les recommandations du Conseil du Café Cacao dans le cadre du 2QC à parvenir à une augmentation de la productivité du cacao.
Si le cacao apporte beaucoup au pays et à ses habitants, en revanche, quelques difficultés sont à aplanir. Daniel Kablan-Duncan, chef du gouvernement ivoirien.
Il s'agit entre autres de la faiblesse de la productivité du verger, des maladies nuisibles du cacaoyer, du vieillissement de la population agricole, de la volatilité des cours de matières premières, de la réduction du couvert forestier et de la concurrence d'autres cultures dorantes. La réforme mise en œuvre depuis la campagne 2012-2013 a permis de restaurer la dignité des producteurs de fèves de cacao qui perçoivent désormais 60% du prix international CAF.
Sont à l'affiche des journées du cacao, des expositions, conférences et tables rondes animées par des professionnels du secteur. Germaine Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Nous l'évoquions dans ce journal, la guerre contre l'État islamique. D'anciens pays ennemis font front commun contre le groupe djihadiste, mais leurs objectifs à long terme divergent, si bien que cela pourrait entraver leurs efforts militaires en cours. Tout de suite, les explications de Michel Joseph.
Certains pays du Golfe ont émergé en première ligne de la lutte contre les militants de l'État islamique, menant des raids aériens et offrant leurs bases aux avions étrangers impliqués dans les bombardements.
Mainly Saudi Arabia, UAE. Il s'agit principalement de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, qui tentent de renforcer une image de véritable puissance militaire du Moyen-Orient, par opposition à leur rôle traditionnellement plus prudent en politique étrangère.
Giorgio Caffiero, fondateur de Gulf State Analytics, un groupe spécialiste du Golfe Persique. Ce dernier avertit cependant que les rôles changeants de ces pays pourraient compliquer la bataille pour l'avenir. L'Arabie saoudite a été longtemps rivale de l'Iran et de ses alliés, et la Syrie du président Bachar al-Assad, dont les forces sont aux prises avec les groupes rebelles. Le gouvernement américain veut de son côté le départ du dirigeant syrien. Ensemble, les États-Unis et l'Arabie saoudite appuient les groupes armés syriens qu'ils qualifient de modérés, c'est-à-dire ceux luttant à la fois contre le président Assad et l'État islamique. Pour Robert Blatcher, directeur intérimaire du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à International Crisis Group, ces rebelles ont de plus en plus de mal à faire la distinction en ce moment où la coalition dirigée par les États-Unis attaque les combattants de l'État islamique avec la bénédiction tacite de Damas.
C'est la ligne officielle, mais il est terriblement difficile de faire valoir cet argument lorsque vous avez des rebelles qui disent à la coalition « Si vous voulez effectivement nous soutenir, alors pourquoi n'attaquez-vous pas le régime Assad ?»
Les rebelles en question sont censés être en ligne de front de toute bataille terrestre contre l'État islamique et tout soutien réel ou perçu des États-Unis au président Assad pourrait les éloigner de la coalition, fait remarquer Robert Blatcher. Le problème, dit Giorgio Caffiero de Gulf State Analytics, c'est qu'il est peut-être impossible de mettre fin à la guerre civile en Syrie sans le recours du régime d'Assad et tant que la guerre en Syrie continuera, les combattants de l'État islamique auront de l'espace pour fonctionner, même s'ils sont vaincus en Irak, prédit l'expert.
C'est apparemment un conflit sans fin dans lequel les États-Unis et l'Arabie saoudite font pression pour un résultat plutôt improbable, à savoir une défaite simultanée de l'État islamique et d'Assad.
Giorgio Caffiero note tout de même une lueur d'espoir au plan régional. La rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran est en train de s'apaiser, ces deux pays collaborant discrètement pour défaire l'État islamique.
Au Mali, la Tabaski est prévue ce dimanche, aussi appelée Aïd el-Kébir ou Fête du Mouton. C'est l'occasion pour le chef de famille d'égorger, si possible, un mouton. C'est pourquoi les rues de Bamako regorgent de moutons, dont les prix varient de 35 000 à 1 million de francs CFA pour un bélier. Notre correspondant Kassim Traoré à Bamako.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Dans les différents marchés de bétail que nous avons sillonnés, l'animal vedette s'appelle le mouton. C'est là, à quelques jours de la fête de Tabaski, les clients font les va-et-vient entre les hangars des vendeurs de moutons.
Bon, je viens de chercher un mouton. Et en réalité, le marché quand même est très très fourni, que ce soit au niveau des marchés à bétail ou au niveau des carrés, c'est plein, mais le prix quand même est un peu élevé par rapport à la bourse des acheteurs. Parce qu'en temps normal, les moutons qu'on a l'habitude de payer à 50-60 000 se trouvent aujourd'hui à 90-100-125.
Le marché de Nyamana est l'un des rares marchés de bétail de Bamako qui est bien fourni. Mais en cette veille de fête, les prix de moutons ne sont pas abordables pour ce fonctionnaire qui a fait le tour des moutons à plusieurs reprises.
Mais je trouve les prix très très chers, très chers. Les prix ne sont pas abordables franchement. Parce qu'un bélier comme ça, on te parle de 200 ou encore 150 000. Un pauvre monsieur qui ne gagne pas grand-chose, quand on lui dit de payer ça, c'est pas abordable. Donc le marché n'est pas facile. J'ai fait le tour depuis le côté Dogon jusqu'au côté Peul ici. Mais le côté Dogon est un peu abordable par rapport au côté Peul. C'est ça, j'ai trouvé un peu de différence.
Certains clients tirent leur épingle du jeu, surtout quand ils sont les premiers arrivés au niveau des vendeurs de moutons, qui très souvent ne font pas de marchandage avec les clients du matin.
Pour le moment, quand même, ça n'a pas été très cher quand même. Bon, parce qu'on a eu 7 moutons même à 132 500. Ça va, alhamdoulilah, quand même.
Plusieurs facteurs expliquent la cherté des moutons. Les pelles et autres vendeurs de moutons pensent que l'État doit voir ce côté afin d'apporter des allègements.
Depuis 1996.
J'exerce cette profession depuis 1996. L'achat, les transports, l'aliment bétail, rien n'est facile dans ce métier. Outre cela, la mairie aussi nous impose souvent des taxes. Il faut par exemple payer chaque jour 50 voire 100 francs par mouton. Les clients ne se bousculent pas comme les années précédentes.
Aujourd'hui, le constat unanime à Bamako est qu'il y a des moutons pour toutes les bourses. Mais c'est l'argent qui fait défaut. Il faut signaler aussi que les Bamakois n'achètent pas très tôt leurs moutons. Ils préfèrent attendre la dernière minute. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
On passe au sport dans cette émission avec Timothée Donogmaï. Bonsoir Timothée, on commence par du football, la deuxième journée de la Ligue Europa.
Eh oui Nicolas, quelques résultats. Dynamo Moscou, PSV Eindhoven, 1-0 en faveur de PSV. Et un but partout dans le match Krasnodar-Everton. On a également Sparta Praha victorieux des Young Boys, 3-1. Dynamo Kiev meilleur que Séville, 3-1. Et Lokeren qui a défait Metalist 1-0.
Allez, on continue de parler du football avec cette bonne nouvelle en provenance du Burkina Faso.
Le gouvernement du pays des hommes intègres a décidé de prêter main forte aux clubs d'élite en leur garantissant chacun un chèque mensuel. Les précisions de notre correspondant sportif à Ouagadougou, Salif Kabouré.
Voilà, Salif Kabouré qu'on essaiera de repasser ultérieurement. Timothée, on va évidemment parler de basket féminin, le mondial 2014 en Turquie.
Et oui, c'est demain que les États-Unis, tenants du titre et champions olympiques, retrouvent la France en quart de finale à Istanbul, avec Nicolas, la ferme intention de laver la France subie en préparation. 6 jours avant le début du mondial, les Américaines s'étaient inclinées à la surprise générale à Paris, 72-76. Un revers qui, Nicolas, mettait fin à 8 ans d'invincibilité en match officiel. Autre rencontre de quart de finale demain à Istanbul, Australie-Canada, Espagne-Chine et Turquie-Serbie.
Voilà, on se quitte en musique comme d'habitude et ce soir on écoute Rather Be, c'est Clean Bandit feat. Jess Glynne.
We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
Voilà, il n'y a pas de meilleure place évidemment que le studio de la Voix de l'Amérique à Washington. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Le Monde aujourd'hui, comme tous les soirs. On va remercier l'ensemble de la rédaction pour la préparation de cette émission. Issy Akaba était à la mise en onde. On va vous faire un grand coucou. Merci beaucoup Morgane.
De rien, et bonne soirée à tous nos auditeurs.
Et excellente soirée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.